France Culture.
Il y avait un zoo humain à Bruxelles pour l'exposition universelle de 58. C'est le dernier grand zoo humain en Europe. Et donc, presque 600 Congolais étaient dans les villages pendant quelques semaines. Après, c'était fermé parce que le public belge se comportait très raciste. Il y avait des gens qui donnaient des bananes aux enfants.
Février 2022. Visite de l'Africa Museum de Tervuren dans la banlieue de Bruxelles, sur le site même où les colons belges exposèrent des Congolais comme des animaux, il y a à peine plus de 60 ans, en 1958. L'exposition en cours retrace l'engouement des Européens pour les zoos humains, liés aux expositions coloniales du 19e siècle. On proposait aux visiteurs d'alors des villages nègres, cerclés de barrières où il n'était pas rare de lire, comme ici à Tervuren, « Ne donnez pas à manger aux Congolais, ils sont nourris ». Des mises en scène que plus d'un milliard de personnes ont pu découvrir à travers le monde, de Hambourg à Chicago, de Paris à Tokyo. Ces exhibitions ont été l'un des vecteurs de la propagation d'un phénomène dont le mot était sur le point d'émerger à la fin du 19e siècle. Le racisme.
Vous avez déjà les tickets ?
Oui.
Oui ? Ok.
À la fin de l'exposition, deux jeunes femmes font face à un mur blanc, où elles ont affiché ce qu'elles nomment pudiquement des micro-agressions, où l'on constate que la barrière est loin d'avoir disparu.
En fait, ce mur s'appelle « Déjà entendu, déjà dit ». Donc ce sont tous des phrases que des personnes issues d'origine africaine ont déjà entendues. Puis on a fait une liste et on a choisi de cette manière-là. Donc c'est vraiment les phrases clichés qu'on entend souvent, même tous les jours. Et en fait, ce sont des clichés qui existent encore aujourd'hui et qui avaient aussi pendant la période coloniale et pendant la période d'esclavage, comme l'Afrique n'a pas de civilisation. C'est la phrase de Sarkozy, mais c'est une phrase qu'on entend toujours. Une autre phrase que moi j'ai souvent entendue quand j'étais plus jeune, c'était « Ici, ce n'est pas l'Afrique », donc c'était en classe quand j'étais un peu trop contente, trop excitée, c'est ce que la prof me disait, ce n'est pas l'Afrique ici. Ou par exemple, tu parles très bien français pour une noire, ou tu as les rythmes dans la peau.
Une chose aussi simple que de trouver l'amour, par exemple, aller dans le monde de dating, trouver quelqu'un pour être en relation amoureuse, c'est vrai qu'il y a des clichés. On te trouve belle pour une femme noire, comme si la femme noire ne pouvait pas être jolie par elle-même. On te dit que tu as des cheveux trop durs, on te demande de twerker, de faire un certain pas. Oui, c'est vraiment des choses que l'on m'a dites en rendez-vous. Ou alors il y a ce cliché aussi que la femme noire est une sauvage au lit, une lionne, une panthère.
Accent, Afrique, albinos, âme, animalité.
C'est souvent qu'on m'a pris pour la
anthropophagie,
pour la
arbre, assimilé, authentique. Banane, banania.
Ils m'ont engagée parce que je suis métisse. Leur idée, c'était que les métisses sont moins radicales que les personnes noires,
baptême,
congolaises,
beauté,
ne
bête,
doivent pas faire
blanchir,
des études supérieures,
bon enfant,
des choses comme ça,
bouche,
par exemple.
Brousse,
les
brutalité, bêtes, cannibale,
oui,
cerveau, chanté, chevelure, chocolat, civilisation, colonie.
Les sauver parce qu'ils n'ont pas de civilisation.
Esclavage, étrangeté, exotique, feu, férocité, fétiche, force, forêt, guenon, hérédité, histoire, humanité, hygiène, identité, immigré, indigène, infirmité, instinct, intégration, inintelligence, invisibilité,
catégorie,
magie.
Les idées très racistes de l'époque coloniale existent encore aujourd'hui. Et les conséquences pour les gens ici en Belgique sont encore là. Moi, comme Belge avec un couleur de peau blanc, moi, je n'ai pas cette expérience d'être exclu. Quand tu penses qu'un homme avec une couleur de peau différente que toi fait partie d'une autre race, il y a un grand problème. Donc, on est en 2022. C'est peut-être temps de changer ça.
Cette certitude d'être du bon côté de la barrière au mépris de l'autre ne date certainement pas du 19e siècle et des zoos humains. Pour la plupart des historiens, le racisme serait né à l'époque moderne, conséquence de la traite transatlantique et de l'esclavage des sociétés coloniales européennes aux Amériques, qui fixèrent une hiérarchie raciale, du nègre au blanc, dont nous mesurons toujours les effets. Quid alors des épisodes antérieurs, des statuts de la pureté de sang mis en place par les Espagnols et les Portugais au XVe siècle pour bannir les Juifs et les musulmans de la péninsule ibérique, des croisades du Moyen Âge ou des persécutions subies par les Juifs dès l'Antiquité. L'historien Benjamin Isaac, dans son ouvrage « L'invention du racisme », parle de proto-racisme pour qualifier l'Antiquité. Car le racisme n'a pas attendu d'être nommé pour exister. De là à dire qu'il est aussi vieux que l'humanité. Pour être qualifié de raciste, le processus d'altérisation doit solliciter ce qu'il y a de biologique, d'immuable en chacun de nous, qui va donc au-delà du simple critère culturel ou religieux. Ces considérations, tout comme l'extraordinaire plasticité du racisme au fil des âges, ne doivent pas nous éloigner de ses conséquences. Le racisme instaure une hiérarchie. Il affirme la domination d'un groupe prétendument supérieur sur un autre. Il blesse, tue, extermine, à tous les âges de l'histoire.
L'héritage grec en question. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et d'Ify Mariani.
On entend par racisme un discours qui vise à exclure une catégorie d'hommes, à l'exclure ou à la déclarer inférieure, au nom d'une infériorité de type biologique, c'est-à-dire congénitale et héréditaire.
Christian de la Campagne, 1983.
Ce type de discours, ce type de démarche, a un lieu et une date de naissance. Un lieu de naissance qui est la civilisation occidentale, l'Europe occidentale, si vous voulez, au sens strict, notre culture héritière du monde gréco-romain, et une date de naissance qui se situe également dans l'Antiquité gréco-romaine, contrairement à ce qui a été soutenu jusqu'ici par la plupart des historiens du racisme qui se sont contentés de le faire commencer au XVIIIe ou dans le meilleur des cas au XVIe, XVIIe siècle.
Je pense qu'il y a quand même une vraie rupture à partir du XVIIe, XVIIIe siècle.
Paulin Ismar.
Ou alors, je ne sais pas quelle société n'est pas raciste ou dans laquelle il n'y a pas des éléments de racisme. Il y a presque deux débats qui sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'existence de la race, du concept de race, et puis ce qui porte sur le racisme. Et il y a certains auteurs qui expliquent que le racisme existe sans qu'il y ait de concept de race. Ça devient un mot, je trouve, tellement léger, quoi, un peu inconsistant, quoi, du coup. C'est-à-dire que je pense que qu'employer le terme de race et de racisme pour décrire des phénomènes de discrimination, de subordination, d'exploitation, d'altérisation, qui sont immensément nombreux, évidemment, dans l'Antiquité gréco-romaine et au Moyen-Âge, je pense que ça obscurcit, en fait, plutôt que ça n'éclaire ces phénomènes-là.
Quand on regarde la question de la race, du racisme, peut-être que ce que certains historiens peuvent dire aujourd'hui, c'est que la race telle qu'on la définit aujourd'hui ne correspond pas aux définitions raciales de l'époque. Mais ça, c'est juste du lexique et de l'étymologie.
Maboula Soumaoro.
Évidemment que l'histoire est toujours faite rétrospectivement. Et que s'il n'y avait pas d'évolution dans l'historiographie, c'est-à-dire dans la façon dont on regarde le passé, il y aurait eu une seule histoire continue depuis la nuit des temps. Alors que on regarde les choses différemment, on interprète les choses différemment, on traduit même les choses différemment selon les époques, parce que quelque chose s'est passé, parce que les savoirs ont évolué. Donc des centres d'intérêt qui étaient sans valeur à une certaine période se retrouvent mis en avant aujourd'hui. Donc bien sûr qu'en 2022, on ne regarde pas l'histoire comme en 1922, 1822, 1722, 1622, et on continue et on continue. Donc je pense que c'est vraiment un argument qui ne tient pas.
Ce qui nous apparaît de prégnant dans cette quête des origines du racisme, c'est la permanence des idées véhiculées par des auteurs et leurs textes dès l'Antiquité. Bien sûr, s'agissant d'auteurs grecs anciens, se pose la question de la traduction, du contexte. La société athénienne en l'occurrence. Ceci dit, Faut-il pour autant s'interdire de questionner leur relecture idéologique et leurs conséquences sur la suite de l'histoire?
Les Grecs et les Romains étaient persuadés de leur supériorité et ils avançaient des arguments pour la justifier.
Benjamin Isaac.
Le fait est qu'ils ne se contentaient pas de penser « nous sommes meilleurs ». Ils expliquaient pourquoi ils l'étaient et cette manière de voir a été assimilée par le monde occidental. Il y a un autre point que j'aimerais mentionner. Les idées sur la pureté. La pureté du lignage, de l'ascendance, des origines. Les Grecs étaient convaincus qu'il valait mieux être d'une lignée pure. Ils s'opposaient au mariage mixte, au mariage entre personnes de groupes différents, qu'ils considéraient comme une sorte de déclin. Beaucoup d'auteurs insistaient là-dessus, notamment au IVe siècle avant Jésus-Christ. L'orateur Isocrate, le philosophe Platon, Démosthènes, tous affirmaient que depuis le commencement, ils avaient toujours vécu au même endroit, à Athènes et dans l'Attique. Ils étaient même certains d'avoir été produits par leur terre. On voit donc apparaître là le lien entre le sang et la terre. Une idée dominante dans la pensée grecque. Par la suite, cette notion a été absorbée par la pensée occidentale. L'idée qu'il vaut mieux ne pas mélanger son sang. À ce sujet, je tiens à m'arrêter sur un exemple précis qui a une longue histoire. L'historien Tacite prétendait que les Germains étaient de sang pur, qui ne s'étaient pas métissés avec d'autres peuples. Quand les Germains se mirent à lire le latin, ils en prirent bonne note. Et bien plus tard, comme nous le savons tous, l'idéalisation du sang pur a eu des conséquences historiques pour les Allemands.
Aristote a écrit que la femme avait moins de dents que l'homme ou que les os de son cerveau étaient moins bien soudés que ceux du cerveau humain. Je crois qu'il faut prendre ces textes au pied de la lettre. Ceux d'Aristote comme ceux de saint Thomas, ceux de Platon comme ceux de saint Augustin. Ce sont des textes écrits par des gens qui sont encore les pères fondateurs de la pensée occidentale. Et je crois qu'il faut prendre ces textes très au sérieux. Ils expriment, chez leurs auteurs, un point de vue, une vision du monde qu'ils n'étaient probablement pas seuls à partager. Le barbare est par nature inférieur au grec. L'esclave est par nature inférieur à l'homme libre. La femme est par nature inférieure à l'homme. Un peu plus tard, certains auteurs hellénistiques diront « le juif est par nature inférieur au non-juif ». Très profondément, je crois que c'est dans ce concept de nature, c'est dans ce naturalisme, ou comme on dirait aujourd'hui, dans ce biologisme impénitent de la pensée occidentale, que s'enracine toutes les aberrations racistes qui ont pu être produites au cours des siècles.
Manéthon, c'est un auteur qui propose une espèce de synthèse de l'histoire égyptienne.
Corinne Bonnet.
Il l'écrit en grec. Donc, il veut montrer aux Grecs que la culture égyptienne a une profondeur, un prestige exceptionnel. Et oui, il a des discours, il présente les Juifs comme des émigrés, lépreux, enfin une vision très très négative des Juifs, oui. Probablement parce que dans l'Égypte de cette période-là, les Juifs étaient une composante ethnique qui était mal vue et qui était à l'occasion ciblée par des pogroms. Oui, on a les premiers pogroms en Égypte. Fin de l'époque hellénistique, début de l'époque romaine. Ça a vraiment traversé les siècles. Et ce sont des textes qui sont connus, qui ont circulé. Et c'est vrai qu'aux époques modernes et contemporaines, on a puisé dans ces textes. On a utilisé ces textes. Il y a une sorte de réservoir de textes anti-juifs dans l'Antiquité qui ont été recyclés après. Mais on n'est pas allé chercher d'autres textes qui ne sont pas hyper fréquents, mais qui montrent quand même des relations pacifiques, positives. Non, on est allé chercher ces textes qui ciblent les juifs, oui, comme étant des mauvais citoyens, qui ont leur dieu et qui ne veulent pas adhérer à ceux de... L'exclusivisme du dieu juif pose problème dans la société romaine où le culte de l'empereur est une preuve de loyauté politique.
Ce sont les premières traces d'un anti-judaïsme, antérieur à la naissance du christianisme. Ce brûlot de Manéthon a contribué à fonder un mythe qui a traversé les âges. La liste est longue des stéréotypes véhiculés dès l'Antiquité sur les Juifs ou encore les femmes, que l'on qualifie pudiquement de sexistes, alors que certains d'entre eux ont résisté à plus de 2000 ans d'histoire. Au chapitre des premières fois, il faut interroger la partition grecque barbare. Il y a là comme la naissance d'une dichotomie, fondatrice de l'altérité. Il y a les Grecs, et puis tous les autres. Ceux qui ne parlent pas la langue grecque, ceux qui ne possèdent pas la démocratie. Comme une première fêlure entre nous et les autres.
On peut partir de la partition grecque barbare parce que ça, elle est bien attestée. Personne ne peut nier que dans les sources, l'appellation barbare est très fréquente et elle donne accès à une espèce de bipartition du monde, nous et les autres. Voilà, ça c'est indubitable. Le mot barbare, c'est une onomatopée qui veut dire ceux qui parlent sabir qu'on ne comprend pas, hein, qui font beurre-beur, donc voilà. Il y a quelque chose de discriminatoire, hein, voilà. Nous, on parle une langue compréhensible, non. Les barbares, c'est une espèce de bloc uniforme, et ça, c'est typique, justement, de la pensée raciste, non, de mettre dans un bloc tout ce qui est différent. Après, quand on creuse, la vision que les Grecs développent dans les textes qu'on a conservés, par rapport aux peuples dits barbares qui font partie de cette grosse catégorie, c'est quand même une pensée qui est très différenciée. Les Égyptiens, c'est pas la même chose que les Chaldéens, comme on dit en Mésopotamie, c'est pas la même chose que les Phéniciens. Et dans chacune de ces cultures, dont par exemple Hérodote parle en long et en large, il y a des choses admirables et il y a des choses qu'on ne comprend pas, qui sont bizarres, qui vont du côté de l'altérité. Ce qui s'est développé, c'est une rhétorique de l'altérité. Et ça, le moment de bascule, c'est les guerres contre les Perses. Au moment où les Grecs se trouvent avec une déferlante de soldats et de navires perses sur les côtes et à l'intérieur des terres en Grèce, et la rhétorique de l'altérité, elle s'est développée pour mobiliser les Grecs. Le roi perse, c'est un tyran. Le régime perse, c'est un régime où il n'y a pas de liberté, où il n'y a pas de citoyens, il y a des sujets. Et puis, il faut bien le dire aussi, pour imposer l'impérialisme athénien.
The Greeks had a concept for not Greek.
Les Grecs avaient un concept pour ce qui n'était pas grec, ce qui était étranger, barbare. Barbaros en grec ancien. Ils vivaient dans l'idée qu'ils étaient uniques. Différents des autres. Le concept de barbaros, est important parce qu'il est toujours actuel. Français, anglais, hollandais, allemand, tout le monde sait ce qu'est un barbare. Un barbaros était un être inférieur pour les Grecs. Et je veux citer ici le philosophe Thalès, qui vécut de 620 à 546, qui se disait heureux d'être un être humain plutôt qu'un animal. Un homme plutôt qu'une femme. Un grec plutôt qu'un barbare. Et c'est la première fois que l'on peut juger de l'image que les Grecs se faisaient d'eux-mêmes.
Themselves. So,
Je ne dis pas qu'ils étaient les premiers à établir une distinction entre eux et les autres, mais ils étaient très clairs sur cette différence qualitative. Les Grecs se jugeaient meilleurs que les barbares. Les Grecs n'étaient ni les premiers, ni les seuls à se considérer supérieurs, mais ils furent les premiers à établir une distinction formelle. Il y avait les Grecs et il y avait les autres. Et ils expliquaient pourquoi ils étaient meilleurs que les autres. Ils argumentaient, ils raisonnaient, ils s'appuyaient sur le savoir de l'époque pour se justifier. C'était nouveau et cela continue de nous influencer en Occident.
C'est vrai que le monde grec, on le regarde de très près toujours parce qu'on a un peu l'impression que c'est nos racines. Hein, là aussi, on est dans une rhétorique hein, de les racines européennes, nanana. Ce genre de bipartition, nous les autres, c'est très ancien. Hein, quand on regarde les textes qui viennent de Mésopotamie, on trouve des choses tout à fait analogues. Parce que c'est quand même souvent lié à des situations d'impérialisme. D'ailleurs, Benjamin Isaac, il écrit un livre sur le racisme dans l'Antiquité, mais avant, il a travaillé sur l'impérialisme. Hein. Donc, je pense qu'il arrive à cette notion de racisme par l'impérialisme. Au fond, l'idée de décrire les autres comme étant inférieurs, c'est juste une façon de légitimer la domination. Quand on regarde les conquêtes des Babyloniens et des Assyriens, on trouve dans leurs textes exactement les mêmes réflexes qui consistent à dire les peuples qui vivent aux périphéries, ils sont comme des chiens ou ils sont comme des singes, on comprend pas leur langue, et donc nous on va leur apporter la civilisation. Ce sont des ressorts rhétoriques vraiment très anciens. Chez les Grecs, est-ce que ça a eu des conséquences durables? Oui, on retrouve cette bipartition tout au long de l'histoire de l'Antiquité, certainement. Il y a toujours une vision dans ces régimes politiques d'un centre qui est, je dirais presque d'un point de vue naturel, décrit comme le centre naturel du monde. Là où, par exemple, pour Athènes, c'est très clair. L'air de l'Attique est le plus limpide. Le climat de l'Attique est le plus tempéré. Et donc, il y a aussi quand même un discours un peu biologique, naturaliste, autour de le monde est organisé autour d'un centre, et plus on s'éloigne de ce centre, et plus les conditions de vie sont dégradées, la culture est moins affirmée, et tout ça justifie des phénomènes de conquête, de domination, etc.
Hippocrate, traité des airs, des eaux et des lieux.
Pour ce qui est des climats, la race scythe diffère de toutes les autres. La contrée de la Scythie est située précisément sous l'Ours et au pied des monts Riphée. Il n'y souffle que des vents du septentrion refroidis par la neige, la glace et les pluies abondantes. Les Scythes respirent toujours un air épais et humide, boivent des eaux de neige et de glace et sont peu propres à supporter les fatigues. Et à cause de cette humidité et de cette atonie, ils ne sauraient ni bander un arc, ni soutenir avec l'épaule le jet du javelot. Car ni le corps, ni l'esprit ne peuvent soutenir la fatigue dans les pays où les saisons ne présentent pas de variations notables.
Alors ce traité attribué à Hippocrate, mais qui n'est sûrement pas d'Hippocrate, a semble-t-il eu une importance fondamentale, parce qu'il établit effectivement de façon tout à fait nette et claire que le caractère des peuples est déterminé en quelque sorte par le climat et l'endroit où vivent les gens.
Maurice Sartre, 2006.
Et par exemple, une idée qu'il développe, c'est que tous les Asiatiques se ressemblent, alors qu'au contraire, les Européens sont tous différents les uns des autres. Et il va expliquer soigneusement pourquoi les Asiatiques sont, d'une certaine manière, inférieurs aux Européens. Dit-il, ils vivent dans un pays où le climat est favorable. Donc, tous les biens y poussent en abondance. Donc, les gens n'ont pas à se fatiguer, en quelque sorte, pour survivre. Et donc, comme ils n'ont pas beaucoup d'efforts à faire, cela ne développe pas leur capacité mentale, intellectuelle et donc spirituelle. Et donc, ils sont faibles, physiquement, même s'ils sont beaux à regarder, on leur reconnaît un certain nombre de vertus, malgré tout. Mais ça donne des peuples peu guerriers, peu courageux, ils se laissent facilement dominer et ils sont donc faits pour la monarchie. Et alors on rentre dans une sorte de cercle vicieux. La monarchie rend les hommes esclaves et donc en réalité les Asiatiques finissent par tourner en rond et ils sont faits pour être esclaves.
Quant au reste des Européens, ils diffèrent entre eux par la forme et la stature. Parce que les vicissitudes des saisons sont intenses et fréquentes. En effet, la coagulation du sperme doit subir des altérations plus fréquentes dans un climat sujet à de nombreuses vicissitudes atmosphériques que dans celui où les saisons se ressemblent à peu de choses près et sont uniformes. Le même raisonnement s'applique également aux mœurs. Une telle nature donne quelque chose de sauvage, d'indocile, de fougueux. C'est pour cela, je pense, que les habitants de l'Europe sont plus courageux que ceux de l'Asie. Sous un climat à peu près uniforme, l'indolence est innée. Au contraire, sous un climat variable, c'est l'amour de l'exercice pour l'esprit et pour le corps. C'est à ces circonstances qu'il faut rapporter la bravoure des Européens et aussi à leurs institutions.
Mais en même temps, il faut bien comprendre que cette vision des choses était un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'au fond, la médecine hippocratique, c'était une façon de rationaliser à l'époque, hein, de penser la médecine comme ne dépendant pas d'une sorte de providence divine, mais étant déterminée par des facteurs proprement humains, environnementaux.
Je crois qu'il y a un personnage qui a joué un rôle extraordinaire dans la diffusion de cette théorie environnementaliste, c'est Aristote. Aristote, dans la pensée, a en quelque sorte formalisé, rigidifié les propos du traité hippocratique et qu'il a popularisé.
Les peuplades des régions froides, c'est-à-dire de l'Europe, sont pleines de cœur, mais sont plus dépourvues d'intelligence et d'habileté. C'est pourquoi elles vivent plutôt libres, mais ne s'organisent pas en cité et ne sont pas capables de commander à leurs voisins.
Aristote, les politiques.
Celles d'Asie, par contre, ont l'âme intelligente et habile, mais sont sans courage. C'est pourquoi elles vivent dans la soumission, c'est-à-dire l'esclavage. La race des Hellènes, comme elle occupe une région intermédiaire, partage certains caractères avec les deux groupes précédents. Elle est en effet à la fois pleine de cœur et intelligente. C'est pourquoi elle mène une vie libre sous les meilleures institutions politiques et est capable de commander à tous les peuples, pour peu qu'elle arrive à une organisation politique unique.
Ce fut la première œuvre à affirmer cette idée de base. C'était le monde d'Hippocrate, traité des airs, des eaux et des lieux. Et elle fut reprise par le philosophe Aristote, qui expliquait que certaines personnes étaient douées de jugement et pouvaient prendre des décisions pour eux-mêmes et pour les autres, alors que d'autres en étaient incapables. Et si elles en étaient incapables, elles avaient donc intérêt à être les esclaves de ceux qui étaient de bons maîtres. Il y avait donc les maîtres naturels et des esclaves naturels. Et c'est, à ma connaissance, la première fois qu'un auteur tentait de justifier l'esclavage. Bien sûr, la religion s'en est aussi mêlée, beaucoup plus tard. Les seuls qui vivaient dans un milieu idéal étaient les Grecs eux-mêmes. Ils étaient donc aussi intelligents que les Asiatiques et aussi braves et bons combattants que les Européens. Et selon
Aristote,
c'était la raison pour laquelle les Grecs pouvaient gouverner le reste du monde s'ils étaient capables de s'unir. Et je vous rappelle que le philosophe Aristote fut le précepteur d'Alexandre de Macédoine, qui allait conquérir la Perse et atteindre l'Inde. Il y a donc un lien entre la forme antique du racisme et l'impérialisme tel que je le conçois. Et je prétends donc que ce qui me semble être à la racine du racisme dans la Grèce antique a influencé la société occidentale moderne a déterminé le racisme tel qu'il a existé dans l'histoire récente et tel qu'il existe aujourd'hui.
Aristote, les politiques.
Celui qui par nature ne s'appartient pas, mais qui est l'homme d'un autre, celui-là est esclave par nature. Et est l'homme d'un autre celui qui, tout en étant un homme, est un bien acquis. Et un bien acquis, c'est un instrument en vue de l'action et séparé de celui qui s'en sert.
Qu'est-ce qu'avance Aristote ? C'est-à-dire que d'abord, il oppose à Platon le fait que l'esclavage, chez Platon, pourrait être une modalité de la relation politique. C'est-à-dire que Platon explique à plusieurs reprises, mais c'est pas que Platon, c'est aussi Xénophon, c'est-à-dire que c'est des auteurs qui ont été proches, des philosophes qui ont été proches de Socrate, considèrent que la relation entre un maître et son esclave, aussi inégalitaire et violente puisse-t-elle être, n'est pas, par nature, radicalement différente d'une relation qui peut exister de subordination entre des individus libres. Donc tout ça fait partie des relations qu'on peut qualifier de nature politique. C'est une forme de politique, quitte à ce qu'on puisse la condamner. Mais tout ça est dans le champ du politique. Et Aristote insiste sur la distinction radicale qui existe entre la relation esclavagiste, qui n'est pas une relation politique, et la relation qui existe entre des citoyens. Et donc, la relation esclavagiste se fonde sur autre chose. C'est une relation qui n'est pas de type conventionnel. Elle a une dimension naturelle, et elle est naturelle aussi parce qu'elle permet à l'organisme dans lequel l'homme doit vivre, qu'est la cité, de prospérer. Donc, il y a toute cette dimension chez Aristote qui, en fait, est la plus importante. C'est essentiellement à ces auteurs-là qu'Aristote veut répondre.
Christian de la Campagne, L'invention du racisme, 1983.
La théorie aristotélicienne de l'esclavage, si souvent mal comprise, ne constitue nullement une apologie de la servitude, un plaidoyer pour la violence et l'oppression de l'homme par l'homme. Au contraire, Aristote est persuadé qu'aucun homme libre n'a le droit d'en réduire un autre en esclavage, ni d'être lui-même réduit à cet état. Entre hommes libres, seuls peuvent exister des liens politiques, c'est-à-dire des liens de convivialité au sein d'une même cité, autrement dit encore, des liens institutionnels. Et c'est précisément pour cette raison que l'esclave ne peut être, pour Aristote, qu'esclave par nature, fils d'un autre esclave et né lui-même dans cette condition, dans la mesure où la nature est justement ce qui s'oppose à la loi et à la convention. Un homme né esclave peut le demeurer sans qu'il y ait injustice. Il y aurait injustice, au contraire, si un homme libre était réduit en esclavage, que ce soit par un tyran interne à la cité, par un pouvoir de nature non démocratique, ou à la suite d'une guerre avec une nation étrangère à la Grèce.
À l'intérieur de ce discours, la partie en fait la plus troublante pour nous, c'est celle où il explique que les esclaves sont par nature dotés de moins de capacités que les libres. Et c'est ce qui justifie aussi pour leur bien qu'ils soient réduits en esclavage. Mais Aristote explique aussi que, en fait, il y a une gamme hiérarchique des êtres ordonnés dans le premier livre de la politique d'Aristote, avec les femmes, les enfants, les esclaves, qui tous jouissent plus ou moins de capacités par rapport au modèle absolu qu'est le citoyen comme homme libre. Et c'est vrai que ce texte, il est très gênant. Il est très gênant pour les philosophes aristotéliciens qui savent pas très bien quoi en faire. Ce qui est certain, c'est que la définition par Aristote de l'esclave par nature a servi de justification dans la très très longue durée à l'institution esclavagiste. Aussi bien chez les juristes espagnols du XVIe siècle, au moment où ils conquièrent l'Amérique, que chez les défenseurs de l'esclavage dans le sud des États-Unis à la fin du XIXe siècle. À chaque fois, ils se réfèrent à l'autorité que représente Aristote.
Ce qui est très important dans les sociétés européennes modernes, dans la référence à Aristote, parce que c'est vrai que c'est une référence majeure, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur un raisonnement qui justifie, qui comprend, disons, les inégalités politiques.
Aurélia Michel.
C'est-à-dire l'idée que les gens de raison, qui sont porteurs de science, de raisonnement, sont dans le devoir de commander ou de gouverner ou de dominer les faibles. Ceux qui ne possèdent pas la raison pour des raisons multiples, leur incapacité ou le fait qu'ils adoptent d'autres mœurs, d'autres religions qui les empêchent d'accéder à la raison. Et ça, cet argument, il est extrêmement fort dans la justification de la guerre faite aux populations indiennes au XVIe siècle lors du processus de conquête américain. Et donc, la manière de qualifier les Indiens permet de s'appuyer sur ce raisonnement d'Aristote. En disant, les Indiens sont des barbares, c'est-à-dire qu'ils sont des étrangers, ils n'ont pas nos mœurs, nos coutumes, nos religions, etc. Et ces mêmes coutumes, mœurs, religions les conduisent au péché. L'anthropophagie, les sacrifices humains, la sodomie, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés à la fois grecques et européennes modernes, l'inégalité va de soi. Elle n'a pas à être justifiée. C'est justement la raison. En invoquant la raison, qu'on peut expliquer qui commande, qui ne commande pas, qui est esclave, qui n'est pas esclave. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre pour nous contemporains, c'est-à-dire que nous qui vivons dans une société égalitaire, en tout cas qui se proclame comme telle, si des inégalités sont avérées, il faut comprendre à quelle justification elles se rapportent. Mais ça n'est pas le cas pour les chrétiens du XVIe siècle. La Grèce, c'est justement une société esclavagiste par excellence. Donc, effectivement, si dès lors qu'on va puiser chez les Grecs la légitimité, disons, en tout cas, les outils plutôt, parce que c'est vraiment des outils de pensée, c'est des outils intellectuels, et ben, ce qui est compatible chez les Grecs va aussi être compatible chez les Européens, dès lors qu'ils utilisent les mêmes catégories philosophiques et politiques, en tout cas, une partie d'entre elles, disons.
Certes, Aristote n'est pas toute la Grèce, toute sa réalité, ni toute sa pensée. Mais pas plus lui que d'autres n'eurent l'idée de remettre en cause une institution aussi puissante que l'esclavage. Un esclavage antique que les historiens ne qualifient pas de racial, puisque l'on soumet à l'esclavage le vaincu, quelle que soit son origine.
Est-ce que l'esclavage est, par définition ou en soi, une institution raciste ? Non, en effet, je ne le pense pas.
Magali Besson.
Parce que on sait qu'il y a des pratiques esclavagistes. Et par exemple, pendant longtemps dans l'histoire, des pratiques esclavagistes ont été justifiées par ce qu'on appelle les théories de la guerre juste. C'est-à-dire, au fond, la mise en esclavage des ennemis vaincus est une pratique légitime juridiquement et moralement. Et par ailleurs, ces ennemis vaincus ne sont pas distingués par une espèce d'essentialisme ou de naturalisation différente. Ce sont simplement des ennemis équivalents à moi, des partenaires dans la guerre. Donc des ennemis que je considère comme suffisamment égaux pour leur avoir fait la guerre. Par ailleurs, ces ennemis vaincus pouvaient sortir de l'esclavage, pouvaient se racheter. Donc il y a une forme de mise en captivité qui n'implique pas d'imputation raciale à l'esclave. De la même manière, l'esclavage pour dette. On peut se vendre comme esclave pour racheter des dettes et sortir de l'esclavage. Donc il n'y a pas ce qu'il y a par ailleurs dans l'esclavage racial ou de l'esclavage qui comporte une imputation raciale, c'est-à-dire la différenciation essentialiste des esclaves, leur dépersonnalisation, leur déshumanisation, l'essentialisation des groupes ou le fait de rapporter les groupes mis en esclavage à quelque chose qui serait de l'ordre d'une infériorité essentielle qu'on a pu dire avec des mots différents dans l'histoire, là encore, on a pu les désigner de sauvages, on a pu les désigner comme des primitifs. Il y a toute une histoire de la construction de ces figures de l'infériorisation qui a été faite et qui continue à se faire dans les discours. Mais la spécificité précisément de l'esclavage transatlantique, notamment colonial, c'est qu'elle fait intervenir une distinction raciale. Thank you.
Toutefois, la racialisation de l'esclavage ne serait pas l'apanage de l'époque moderne. Elle serait née sur un autre continent dès le IXe siècle, soit 8 siècles avant la traite et l'esclavage atlantique, avec la conquête arabe et la traite arabo-musulmane, au profit d'un nouvel empire qui va s'étendre de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Une traite restée longtemps taboue, qui nous apprend que les colons catholiques européens n'ont pas été les premiers à mobiliser l'épisode biblique de la malédiction de Cam pour justifier un esclavage racial, celui des Noirs.
Les Arabes, quand ils arrivent en Méditerranée, ils héritent en grande partie, le monde arabo-musulman hérite en grande partie des structures juridiques qui ont été celles du monde gréco-romain, en particulier concernant l'esclavage. Donc ils sont héritiers d'une grande partie de ces pratiques. Ensuite, va se développer, à partir du 8e siècle, une traite, d'abord essentiellement transsaharienne, de très très grande dimension. On parle de plus de 3,5 millions d'hommes et de femmes déportés durant cette période, hein, 8e, 14e. Donc, la question que pose un grand nombre d'historiens, c'est quand même de savoir si à l'intérieur même de ce processus et de ces traites de très très longue durée qui ont existé entre le monde arabe et l'Afrique subsaharienne. Donc d'abord par la voie transsaharienne, et puis ensuite par l'Afrique de l'Est et par l'océan Indien. Est-ce que à certains moments, notamment à partir du 14e, 15e siècle, il n'y a pas un discours de type racialiste ou raciste, en tout cas un discours qui mobilise les mêmes ressources idéologiques que celles de la race, qu'on identifie à la race, qui s'est développé? De ce point de vue-là, il y a un débat qui existe parmi les spécialistes du monde arabo-musulman, les spécialistes de l'esclavage dans le monde arabo-musulman, qui ont des désaccords. Certains considèrent que, tendanciellement, oui, ce type de discours a pu exister, mais qu'il est incomparable avec ensuite ce qui va se développer dans le monde européen à partir du 16e, 17e et surtout à partir du 18e siècle. D'autres, au contraire, mettent en avant la proximité.
Ce qui est intéressant dans les transformations, alors c'est peut-être avec les Arabes musulmans que cela arrive en Afrique du Nord au 8e siècle.
Catherine Kokri-Vidrovitch.
Mahomet, c'est le 7e, il convertit à l'islam l'Arabie. Les Arabes sortent d'Arabie et vont envahir le monde. Ils vont commencer par l'Ouest, par l'Égypte et l'Afrique du Nord. Et à ce moment-là, ils rencontrent des non-musulmans, qui sont dominants, qui étaient les berbères à l'époque, ben, ils vont travailler à les convertir. Ils vont d'abord les mettre en esclavage parce que justement, ils ne sont pas musulmans. Et puis ensuite, les convertir. Et donc, l'islam va progresser. Et les berbères d'Afrique du Nord descendent vers le sud, chercher des esclaves, parce que le mode esclavagiste est le mode dominant de ce monde qui a très peu de techniques autres que le travail humain. Donc l'être humain est considéré comme un outil. Des formes d'esclavage, soyons prudentes sur la définition, ont existé depuis que l'humanité existe aussi. C'est très 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 ancien. Bien plus ancien que l'esclavage des Noirs, qui est vraiment une création. C'est pas une création des Européens, mais c'est une systématisation par les Européens à partir du XVIe siècle, donc relativement tardif. Mais c'est une création plutôt des Arabes musulmans, quand ils arrivent en Afrique du Nord, parce qu'avant, ils avaient beaucoup d'esclaves. Mais c'était des esclaves qui venaient du Nord ou de l'Est, qui étaient, je dirais, de toutes les couleurs, de tous les teintes possibles et imaginables, mais qui, dans l'ensemble, n'étaient pas noirs, parce qu'on ne connaissait pas encore l'intérieur du continent africain. À partir du moment où les Berbères vont chercher des esclaves au sud du Sahara, bon, ils amènent des esclaves, et là, il y a un redoublement du racisme, parce que ils sont esclaves parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais ils sont esclaves aussi parce qu'ils sont noirs. Et c'est la première fois que la notion de noir va s'ajouter à la culture. C'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement une différence culturelle, il y a une différence phénotypique, physique.
Les Arabes, lorsqu'ils ont occupé l'Irak,
Salah Trabelsi,
surtout dans la région qui se trouve dans le sud de Basra, entre Basra et le Golfe, c'est une région de marécage, donc on avait lancé énormément de chantiers de revivification des terres. Il fallait mettre en place des barrages, des canaux, et puis surtout dégager le sel, le nitre, donc, qui empêchait ces terres d'être donc vivifiables. C'est un travail terrible, hein, donc, puis c'est une région qui est marquée par des chaleurs importantes, un climat donc malsain, et on avait estimé que les seules populations susceptibles de faire ce travail-là, c'était donc les esclaves issus des régions de Zanzibar, parce qu'il y aurait eu une sorte donc de similitude entre les deux territoires. Et en même temps, on avait installé un autre peuple, enfin une autre population. C'est des populations qu'on a fait venir depuis l'Inde. Donc ce sont en effet les deux ethnies qu'on estimait capables du fait de leur origine territoriale et du climat de leur pays qui étaient susceptibles en effet de pouvoir travailler et de pouvoir supporter à la fois et le climat et la pénibilité des travaux. Alors on a la même théorie climatique que les Grecs, la même influence hein, donc du point de vue des humeurs. Hein, donc voilà, c'est puisque on se réfère à Galien et on se réfère à Ptolémée et également à Hippocrate pour dire que les Noirs, ce qui explique leur peau, ce qui explique leur débilité, c'est qu'ils sont essentiellement dominés par Saturne, ce qui explique justement la conformation biologique et la nature du climat de leur pays. On a un texte surtout d'un auteur qui était à la fois un historien et un voyageur, qui s'appelle Al-Masoudi. Et Al-Masoudi a écrit donc un livre qui s'appelle « Les prairies d'or »,« Mourouj al-Dhahab ». Et dans le premier volume de son livre, il essaie de décrire le monde, de décrire les mers, les océans et les peuples. Et dès les premières pages, il va nous donner une représentation de certains peuples, dont les Noirs et les Indiens.
Par leur intelligence, leurs principes politiques, leur sagesse, par leur robuste constitution autant que la pureté de leur teint, de leur sagacité, les Indiens diffèrent de toutes les races noires, telles que les Inges, les Démédimes et leurs semblables.
Et il cite l'exemple d'un grand aristocrate qui était proche d'un compagnon du prophète. Et il disait que ce Taous al-Yamani, donc ce compagnon, ne mangeait jamais de la chair d'un animal abattu par un noir. Donc vous voyez que déjà au Xe siècle, nous avons les éléments d'une construction, d'un discours donc racialisé, puisque justement la couleur noire va être associée à la débilité, à la pureté.
Galien attribue aux Noirs dix traits spécifiques, à savoir les cheveux crépus, les sourcils rares, les narines développées, les lèvres épaisses, les dents aiguës, l'odeur forte de la peau, la noirceur de la prunelle, les crevasses des pieds et des mains, le développement de la verge et une gaieté excessive. La prédominance de ce dernier trait s'explique par la débilité du cerveau du Noir et la faiblesse de son intelligence. La vivacité du Noir, l'empire que prend sur lui la joie et la pétulance extraordinaire qui distingue les Inges parmi toutes les lignées noires, ont inspiré à d'autres auteurs des observations que nous avons insérées dans nos ouvrages précédents.
On a des discours qui vont en effet se suivre de siècle en siècle. C'est-à-dire qu'avec l'extension de l'esclavage, on va voir que chez ces savants, chez ces historiens, chez ces hommes de lettres, chez ces géographes, on va voir que les enjeux des savoirs vont en quelque sorte céder le pas aux stratégies de justification de la domination. On a en quelque sorte un déplacement des paradigmes de la connaissance, parce que c'est-à-dire sous prétexte de faire connaître le monde, puisque la plupart du temps, donc, ce sont des voyageurs qui racontent les us et les coutumes et les différences entre les peuples. Mais en même temps, derrière justement ce désir de faire connaître, on va voir se profiler donc des préjugés nouveaux ou des taxonomies donc, qui vont en effet développer toute une représentation dégradante pour toutes les communautés donc, négro-africaines dans ce monde arabe classique. Et on va retrouver justement la trame hein, de tous ces préjugés et de ce discours qui va se développer entre le 9e, le 10e, le 11e, le 12e, le 13e, jusqu'à Ibn Khaldoun, et même par la suite jusqu'à Shbihi. Un autre élément qui nous ramène au 9e siècle aussi, vous savez qu'au 10e siècle en Égypte, il y a eu un esclave qui s'appelle Kafur al-Irshidi, qui avait réussi donc à s'emparer du pouvoir. Et c'est un esclave d'origine nubienne, esclave noir. Aujourd'hui encore, dans les programmes scolaires, les élèves des pays arabes apprennent par cœur un poème terriblement donc infamant pour les Noirs, d'un mépris total, qui va jusqu'à dire que n'achète jamais la tashtari l'abda illa wal asa ma'ahu. N'achète jamais un esclave noir sans oublier la trique ou le bâton. Inna al-abida ajnasun min akidu. Car les esclaves noirs sont des êtres hideux.
Accent, sacrifice. Afrique, albinos, sale. Âme, animalité, sacrifice. Anthropophagie, apartheid, arbre, sauvage, assimilé, authentique, sens, banane, banania, sexe, baptême, beauté, silence, bête, blanchir, bon enfant, singe, bouche, brousse, souffre, magie, main, maladie, cannibale, marron, marque, masque, mère, chanter, monstrueux, musique, nation noire, nature, nez, noirceur, nounou, nuit, colonie, obscurité, odeur, connaissance, oncle Tom, oreille, corpulence, origine, othello, paresse, paresse, petit nègre, phallus, pied, porgy and bess, danse, pouvoir noir, prince noir,
queue leu,
air, race noire, racine, rire, roi nègre, rythme, sacrifice, sale, sanguinaire, sauvage, sexe, silence, singe, souffrant, soumission, souplesse, spécificité, élu, sperme, spiritualité, émotion, sport, stéatopigie, superstition,
sauvage, sur la tête, une lionne, une panthère,
tirailleurs sénégalais, traite,
pour la secrétaire,
travail, tribu, tropical,
trou noir,
ou elle est
inférieure, et il faut aller les,
soi-disant,
aller les civiliser, aller les sauver parce qu'ils n'ont pas de civilisation.
Si on veut, et c'est pour ça que j'insiste sur la singularité du mot race et du racisme pour qualifier l'Occident, qualifier l'histoire contemporaine occidentale, enfin disons moderne occidentale, c'est justement pour le cantonner à une séquence bien précise qui est l'avènement des sociétés démocratiques dans l'Europe moderne. Et là, évidemment que ça s'appuie sur des références grecques, sur des références bibliques, sur des références religieuses chrétiennes diverses et variées, sur les sciences naissantes, sur tout ça. Cette modernité, elle ne se comprend pas si on ne comprend pas l'héritage grec, de manière générale. Et c'est une fenêtre qu'on ne montre pas suffisamment, parce qu'on regarde surtout l'Occident par ses côtés positifs, les lumières, la liberté, la philosophie, la raison, etc., etc. Or, dès le départ, cette philosophie grecque, cette raison dont on se réclame encore, elle est pensée dans des sociétés esclavagistes. Ce qui n'était pas, à l'époque des Grecs, un paradoxe, ce qui l'est beaucoup plus dans nos sociétés.
En fait, ce dont on parle, c'est des systèmes de domination, et des systèmes de domination qui avaient des modes de fonctionnement différents selon les lieux et selon les périodes ont existé. Donc il y avait des personnes bien nées, des personnes moins bien nées, il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des institutions sociales, et ça, on peut les étudier pour ce qu'elles étaient. Enfin, la question de l'égalité, elle se pose dans la Grèce antique, dans la Rome antique, comme dans nos sociétés occidentales actuelles. Et chacune de ces périodes et chacun de ces lieux va avoir sa propre modalité. Donc, c'est pas parce qu'on était africain qu'on était esclave dans la civilisation gréco-romaine, mais par contre, la catégorie esclave existait et avait une sorte de sens, avait une économie sociale à l'époque, que ce soit lié à la couleur de la peau ou non, c'est pas la question, c'est la domination la question. Maintenant, quand on parle de l'esclavage moderne ou l'esclavage colonial, c'est qu'il y a eu cette coïncidence faite, cette équation faite entre une couleur de peau et un statut social. Mais le statut social, il est très très ancien. Il a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Si aujourd'hui en Occident, on se réclame de la civilisation gréco-romaine et que cette civilisation constituerait notre socle, quel est le regard qu'on pose et qu'on porte et quelle est notre compréhension de cette civilisation? Est-ce qu'on est capable de le regarder, cet héritage, pour ce qu'il était? qu'on ne dise pas les racines racistes des civilisations gréco-romaines ne signifie à mes yeux absolument pas qu'elles n'existaient pas. C'est le fait de les reconnaître. Et donc la question de l'héritage, elle se pose, qu'est-ce qu'on veut faire de cette période très pratique, parce que très éloignée, dont on peut dire n'importe quoi, et au sujet desquels on peut enseigner n'importe quoi, selon les valeurs que l'on veut mettre en avant, selon les mythes. Et ça, c'est commun à toutes les civilisations et à toutes les sociétés. Il y a des mythes, et les mythes n'ont rien à voir avec la réalité et la vérité.
L'héritage grec en question, avec Salatra Belsi, Maboula Soumaoro, Martine Coutenier, Paulin Ismar, Benjamin Isaac, Catherine Cochry-Vidrovitch, Corinne Bonnet, Aurélia Michel, Magali Besson, Marie-Reine Liumva et Salomé Isebert. Lecture, Thierry Beauchamp, Didier Lagarde et Alex Fonja. Archivina, Sophie Enoch. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Bruno Mourlan. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Diffie Mariani.